Je crois que d'accueillir donc ce projet-là, qui est un petit peu dans l'axe pivot, ça va nous faire tourner forcément autour d'une unité. On émet comme ça des idées qui sont est-ce que c'est une unité de travail, c'est-à-dire est-ce que c'est plusieurs équipes qui vont tourner autour, je dis n'importe quoi, d'un même acte, d'une même tragédie. La question, c'est quelle va être l'unité. Qu'est-ce que ça va être, cette unité qui va permettre à un collectif de se... On aurait dû fermer la porte en bois, en fait. Qui va permettre à un collectif de... Voilà. De tourner autour. J'ai perdu le fil, du coup. C'est ça.
Oui, on se dit même que peut-être la question qu'on va poser... Parce qu'en fait, je sais pas, on peut élargir encore la notion des informels, c'est vraiment l'endroit du travail, de la réflexion sur le travail aussi. C'est peut-être pas simplement l'endroit de l'essai, c'est peut-être ça aussi. Je veux dire, c'est un peu la question qu'on se pose avec l'accueil de la société. J'ai toujours envie de dire la société au lieu de Castellucci. Ouais.
Pour que le collectif je préfère parce que quand même.
Je trouve que c'est plus juste, quoi. Parce qu'autrement, 15 jours que partout ailleurs, ouais. 15 jours. 15 jours, on est en train de voir si on peut prolonger, parce qu'on se trouve quand même à un endroit très particulier. On va être la dernière étape. Et comme on a développé aussi tout un travail, je veux dire, de documentation, depuis le début, sur toutes les étapes, donc on va profiter de ce temps-là pour interroger tout le parcours. Et peut-être qu'il y a une question qui me paraît assez centrale à l'heure actuelle, qu'on retrouve un peu partout. Hein, je veux dire, on en discutait l'autre matin avec Maria Munoz, là, qu'on avait invité avec le Festival de danse en Méditerranée, qui est la question de la documentation, donc de la trace, de la transmission, etc. Et on se dit que peut-être que ça va tourner autour de la tragédie, mais peut-être que ça va tourner aussi autour de la transmission, autour de la documentation. Voilà, plus de la documentation. Qu'est-ce que ça veut dire à l'heure actuelle, toutes ces équipes qui se préoccupe de la documentation.
La documentation au sens de transmission et de partage avec un public et avec l'autre. Pas en termes de... C'est plus un mouvement immédiat. C'est pas de l'archivage, oui, voilà.
Oui, oui. Non, c'est vraiment de la transmission, oui. Quoi. Mmh, mmh. Mais on peut rapprocher ça, je dirais, de l'aventure des carnets bagouets, hein, aussi. Mmh. Ça, je crois que ça a à voir. Mmh. C'est-à-dire comment, il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre de comment on revisite la notion de répertoire, oui, c'est ça. Qui est vraiment est essentiel, je pense. Mm. À l'heure actuelle, on est tellement dans la nouveauté, et puis encore un, et encore un, et encore un.
Dans
l'amnésie, dans l'éphémère. Voilà.
Et tout ça, c'est aussi, maintenant, ça devient brûlant d'actualité, parce que, par exemple, on dans le cadre des informels, on a, dans le mouvement qui actuellement anime donc toute la profession par à travers le problème des intermittents et de ce nouveau protocole, il y a une question qui est pas encore à jour, mais qui est à l'ordre du jour de façon permanente, c'est la notion de réappropriation. Et je crois que la notion de documentation rentre complètement dans cette notion de réappropriation. Réappropriation au sens très large du terme, d'un répertoire, d'espace. Enfin, de les nommer, c'est réducteur d'ailleurs. Il faut mieux rester dans ce que le mot évoque au sens le plus large du terme. Cette question est venue pour comprendre ce qui se passait avec l'intermittence, et je crois qu'elle va rester très longtemps d'actualité.
Réappropriation, parce qu'il y a eu une désappropriation ?
Absolument.
Oui. Je crois qu'on a été complètement déporté dans le travail par la production.
Oui, c'est ça.
Complètement par la production. Mmh. Et je crois que l'aventure là de la tragédia endogonidia, c'est vraiment une magnifique réappropriation. C'est-à-dire que vraiment, ils ont posé leur projet, il a fallu se plier à ça. Et ça a été très bien. La production s'est pliée à ça. Ce n'est pas eux qui sont pliés à la production.
ça paraît incroyable, mais c'est devenu une exception.
Mais c'était.
Mais c'est devenu une exception.
C'était incroyable parce que avec Alain, on était à la. On s'est retrouvés, mais c'est incroyable qu'on soit dans cette aventure-là, parce qu'on s'est retrouvés. Complètement de façon accidentelle à la réunion de production. C'était à Rome, c'est ça? Donc c'était, c'est parce qu'en fait on voyait l'équipe le matin qu'ils nous ont dit l'après-midi, mais venez à la réunion. C'était, ne restez pas tout seul dans Rome, venez à la, en gros, grosso modo c'était ça. Et on écoutait avec Alain, et au bout d'un moment on s'est dit, alors que a priori on n'a pas la carcasse pour entrer dans ce. Je préfère carcasse.
Carcasse.
pour rentrer dans.
Non, mais justement, on a la carcasse.
Alors, eh bien, voilà. Ça a mis à jour cette. Et on s'est regardé, on s'est dit, mais il faut qu'on en soit. Et on avait. À l'époque, quand on est rentré, on est rentré tout de suite d'ailleurs.
Tout de suite.
C'est-à-dire qu'à la fin de la réunion, on était coproducteurs. Sans savoir comment on allait faire d'ailleurs.
On s'est dit, en fait, c'est pas pour nous, donc c'est pour nous. Quoi. C'était... Et puis, on peut pas les laisser... c'est pas juste qu'il n'y ait que les gros festivals et les grosses structures qui soient dans cette histoire-là. Voilà. Bon, d'ailleurs, c'est pas pour nous envoyer des fleurs, mais on a été les seuls à répondre à leur demande de collaboration. C'est-à-dire qu'effectivement, je veux dire, en réunion de coproduction, ils ont dit, mais puisqu'on est là... au moins 15 jours dans chaque film, mais inventer des choses avec eux. Inventer des choses. Ça a failli se faire avec Berlin, où effectivement il devait normalement y avoir des jeunes acteurs qui devaient travailler avec eux, et ça s'est pas fait. Mais ça a failli se faire à Berlin. Et partout ailleurs, ça ne se fait pas. Enfin, pour l'instant. Pour l'instant, mais quand même, on a déjà dépassé la moitié du parcours. Quoi.
Et le travail de documentation qu'on fait, qui pour l'instant, il y aura un travail d'écriture, mais pour l'instant est essentiellement vidéo, est parti du point vraiment du niveau zéro du travail jusqu'à son arrivée à Marseille pour l'étape 10.
Dans un an.
Et toutes les étapes sont suivies. Toutes les étapes sont suivies et va faire l'objet au moment des informels. On ne sait pas quelle forme ça va prendre. Pour l'instant, on pense à une installation, à un parcours pour le public à travers ces différents espaces. Ça se travaille en ce moment, mais c'est vrai qu'il y aura donc ce lien qui sera en parallèle avec la présentation du travail.
C'est une documentation subjective. C'est pas du tout une documentation exhaustive. Le travail avec Asselucci, c'est vraiment très subjectif.
C'est une réappropriation en fait du parcours.
Comment on le vit,
une réappropriation artistique à nouveau de ce parcours-là. Donc d'autres interrogations de ce parcours qui vont forcément émerger.
Et vous, Suzanne, vous avez suivi toutes les étapes?
Pas toutes. Non. Enfin, en fait, le projet de la société, hein, je vais y arriver. En fait, c'est le projet La Tragédia en Dolomidia elle-même, l'objet même, et c'est l'histoire en fait d'une matrice qui se développe elle-même. C'est-à-dire qu'à partir d'une représentation, d'un spectacle qui est fait par d'abord à Cesena, va naître un autre spectacle qui va naître à Avignon, qui découle du premier, mais qui n'est pas le premier. Enfin, mais tout, c'est très organique. Hein. Ça se reproduit organiquement. Mais chaque fois, ce qui est caractéristique, c'est que chaque fois, ils vont dans une ville en Europe, mais ils reviennent pratiquement systématiquement, avec quelques exceptions près, à Cesena, chez eux, dans la fabrique, dans le ventre. Quoi. Ils reviennent, ils redistribuent les choses, ils repensent, enfin, et ils repartent. Et en fait, pour réaliser l'objet qu'on va faire à côté, qui est peut-être une installation, on ne sait pas encore. Donc, moi, je travaille avec Thomas Fourneau, qui est à la vidéo. Et ce qu'on a trouvé comme position la plus juste, c'est que Thomas suit les étapes, c'est-à-dire que l'image suit, mais l'écriture est fixe. C'est-à-dire que moi, je ne me pose qu'à Cesena, même si je vais voir de temps en temps des spectacles ailleurs, mais l'écriture ne vient que de Cesena.
Et comment ça se passe alors à
16 humains. Vous y avez été là ?
Oui, deux fois. Trois fois même là.
Trois fois,
c'est ça. Trois fois. Pour le moment, ça se passe un peu en observation, parce que c'est pas facile d'être à un endroit pareil. Hein. L'écriture, la vidéo, on peut être complètement voyeur. Hein. C'est vos propres, avec l'image, on peut pénétrer les choses. L'écriture, c'est très difficile parce qu'il faut rentrer en conversation avec. Donc cette étape-là, elle a été abordée, mais pas complètement. Moi, pour le moment, je suis rentrée en conversation avec ces énas, avec le paysage, la ville et l'endroit d'où ils sont, eux. C'est-à-dire d'où ça naît, quoi. J'en suis là. Je ne sais pas où ça va aller après, cette année, puisque je vais y retourner en janvier. Mais pour le moment, j'en suis là. Et là, l'autre question, c'est que quand même, l'autre caractéristique de la tragédia, c'est qu'il n'y a pas de texte. Ou quand il y est, c'est des lettres de l'alphabet, c'est une langue d'ailleurs, une langue sidérale, j'ai l'impression. Donc le texte est complètement... soit il n'a jamais existé, soit il n'existe plus dans les spectacles. Et la difficulté, c'est de mettre du texte à côté. C'est-à-dire, mais quel texte on peut écrire à côté de ça ? Il y a plein de questions, hein. Donc c'est toutes ces questions qui sont intéressantes à se poser.
Mais pour le coup, on bouge même dans les origines, parce qu'on en est à, quand on est à Cesena, à aller visiter le village où la famille Castellucci a vécu, par exemple. C'est-à-dire qu'on prend des sentiers très détournés pour revoir cet environnement, pour re-questionner un petit peu les éléments, le cadre de vie, quoi.
Oui, les amis. C'est de ça dont ils parlent.
Oui. Mais ils ont un sens de l'univers familial, on le voit, hein, et on peut pas le négliger quand on les côtoie.
C'est impossible de l'oublier.
On peut pas l'oublier. C'est inhérent complètement à leur travail, ce qu'ils font, questions qui se posent. Ça va tellement loin que la reconnaissance. Quand on regarde le plan de travail, des journées de travail pour Paris, par exemple, il y a le calendrier des jours, et sur un jour on a arrivé de Thomas Fourneau. C'est-à-dire que ce projet de la documentation qu'on mène avec eux est complètement inclus maintenant dans le mouvement de nous. On a une journée de discussion avec eux. C'est vrai que par rapport Alain le disait, on fait pas cocorico hein, quand on dit ça, mais c'est vrai qu'on est arrivé un tout petit peu. C'est le rôle des Bernardines, donc on n'a pas à faire cocorico, à singulariser cette relation.
Mais je crois qu'on n'aurait pas pu faire autrement.
Ça n'avait pas de sens. C'est ce qu'on sait.
Autrement, on serait indigné comme les autres.
C'est ce qu'on a dit.
Vous n'êtes pas dans une logique de remplir un calendrier.
Non. C'est ce qu'on disait à Roméo et à l'équipe quand on les a vus. On a dit, on peut pas être des coproducteurs on fait pas venir la société parce qu'aujourd'hui la société représente quelque chose dans le paysage théâtral. Il faut qu'on arrive à établir un lien, un rapport de travail. Sinon, c'est impossible. Ce mouvement-là devient impossible. Je crois qu'on y arrive. On met à jour cette chose-là. Ensemble, c'est ça qui est intéressant, avec eux.
Non, mais à tel point, c'est ce qui est assez magnifique, c'est que, en fait, tel que ça devait se passer, ils auraient dû être ici, là, maintenant. C'était prévu que c'était pour cet automne-là. Et puis, ils nous disent, mais en fait, on est très coincés parce que Paris et Rome, Marseille, Paris et Rome, c'est trop rapproché. Est-ce qu'on pourrait pas décaler ? Et très vite, on s'est dit, mais en fait, c'est merveilleux décalé. Ça va nous mettre à la fin. Donc, au bon endroit pour nous, ou à l'endroit le plus juste. Et on a décalé, tout de suite, on a décalé. Voilà.
Ça veut dire que...
Ça aussi, ça fait partie de nos possibilités de jongler, même si
vous
ça paraît...
Vous avez une approche souple de... Enfin,
oui, bien sûr.
C'est pas de la programmation...
Oui, bah c'est dans la lignée de ce qu'on se disait hier soir, c'est-à-dire que il n'y a pas de projection béton de programmation très longtemps à l'avance. Il y a toujours cette possibilité de faire ressortir finalement de nouveaux éléments, de nouvelles donnes à tout moment. Et même sur
pour les informels comme pour la saison de Merlin,
et ça rend les choses très difficiles.
Oui.
Disons que c'est plus facile. Disons que c'est beaucoup plus facile pour les informels, mais même
c'est le
pour...
jeu des informels, on va dire même.
Oui, c'est le jeu des informels.
C'est le jeu des informels. Mais c'est l'esprit aussi de la maison.
Oui.
Bah, c'est-à-dire que la saison des Bernardines, elle est toujours, comment dirais-je, elle est toujours tendue entre deux choses. C'est-à-dire d'une part les fidélités, donc des projets dont on sait très longtemps à l'avance qu'ils vont arriver. On ne sait pas exactement quand, à deux ou trois mois près. Et puis la possibilité effectivement d'accueillir des choses qu'on n'avait pas prévues. Quoi. Et ça, et c'est drôle, ça arrive beaucoup plus ces dernières années. Donc c'est comme si on retrouvait quelque chose qui était au tout début des Bernardines. Ces dernières années, par exemple, l'année dernière, on a bouleversé deux ou trois fois le calendrier. Bon, d'une part, parce qu'Alain Béard n'était pas vraiment en création, il était en esquisse de travail. Donc on a fait revenir Raffaella Giordano. Et d'autre part, parce qu'il y avait un spectacle des Vadoumbia qu'elle avait fait en Afrique, en Côte d'Ivoire, et que vu la situation en Côte d'Ivoire, oui, il fallait le faire venir très très vite pour que ça n'explose pas, pour que l'équipe n'explose pas. Et on a monté un plan d'urgence, quoi, et on a pu le faire.
Mais c'est important de maintenir cette situation où un metteur en scène n'est pas prêt, et qui vient tranquillement le dire, et qui dit « je ne suis pas prêt, je ne peux pas sortir le spectacle ». Voilà, c'est un peu dans cette,
oui, bien sûr,
dans cette veine-là.